Plan large, le nouveau rendez-vous cinéma, Antoine Guillot.
Plan large aujourd'hui sur le cinéma américain, célébré pour la 42e fois depuis hier et jusqu'au 11 septembre à Deauville. Nous sommes en direct et en public du très joli théâtre du Casino Barrière. Avec nous, trois cinéastes qui jettent un regard acide mais aussi très tendre sur l'Amérique d'aujourd'hui. Todd Solondz, Matt Ross et David Mackenzie. Leurs films respectifs s'appellent Le Teckel, Captain Fantastic et Comancheria. Bonjour et bienvenue dans Plan Large, le nouveau magazine du cinéma sur France Culture. Tous les samedis, vous entendrez ici ceux qui font le cinéma, tout le cinéma d'aujourd'hui, sorti en salle bien entendu, mais aussi actualité du patrimoine, des livres et des revues consacrées au 7e art, avec pour seul mot d'ordre l'éclectisme, la curiosité et le plaisir de vous faire entendre du cinéma à la radio. Et puis que ceux qui regrettent déjà Michel Simon et son excellente projection privée, à qui je succède, je dois le dire, non sans émotion, qu'il se rassure, Michel interviendra régulièrement dans Plan Large et d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui. Pas plus tard qu'aujourd'hui en effet, car si nous sommes en direct du 42e Festival du cinéma américain de Deauville, un peu plus à l'est se déroule un autre festival, et pas des moindres, un peu plus âgé que celui de Deauville, la 73e édition de la Mostra de Venise, une édition très tournée vers l'Amérique elle aussi, ceci dit, puisque sur 20 films en compétition, pas moins de 6 Américains sont en lice pour le Lion d'Or, dont celui qui a ouvert les festivités samedi, La La Land du jeune Damien Chazelle, un hommage à l'âge d'or des comédies musicales américaines en duplex des studios de la RAI sur le Lido de Venise. Michel Simon, chapeau claque sur la tête et claquette aux pieds. Comment s'annonce cette Mostra 2016, Michel ?
Alors effectivement, ce qui caractérise cette Mostra par rapport à d'autres années, c'est l'importance du cinéma américain. C'est-à-dire que le directeur Alberto Barbera était constamment en concurrence avec Toronto, qui se prévalait de sa massive présentation de films. Mais cette fois-ci, Barbera a pu retenir beaucoup plus de films que Toronto même, ce qui est surprenant dans les grands films américains. Tout cela parce que récemment, les dernières années, Gravity d'Alfonso Cuarón, Birdman d'Iñárritu et Spotlight ont été en première mondiale à Venise et ont eu un succès aux Oscars. Et on sait que Hollywood est très sensible à cela. Donc voilà Venise devenue plus que Toronto, la rampe de lancement de la production américaine. Alors le film de Damien Chazelle est une très heureuse surprise. C'est une sorte d'hommage effectivement à la comédie musicale américaine via Jacques Demy, qui lui-même rendait hommage à la comédie musicale américaine. Donc c'est en hommage au parapluie de Cherbourg et aux demoiselles de Rochefort qu'il y a cette histoire d'amour entre deux aspirants artistes dans le Los Angeles d'aujourd'hui. C'est un film très frais, très amusant et qui a de fortes chances lui aussi de se retrouver dans la course aux Oscars. Donc c'est ça qui a, je crois, marqué surtout le début du festival. On attend évidemment des grands cinéastes, Terrence Malick, Kusturica, Konchalovsky, Stéphane Brisé, qui vont tous présenter leurs films la semaine prochaine. Mais dès maintenant, il faut tout de même remarquer le film de Denis Villeneuve, Contact, qui est un film de science-fiction dans la lignée des rencontres du troisième type. Le contact avec les extraterrestres est un film d'une grande maîtrise cinématographique, très brillamment mené. Les autres films américains ont moins marqué. Je sais que Tom Ford, par exemple, pour Nocturnal Animals, les animaux nocturnes, à beaucoup de partisans. Moi, j'ai été très, très déçu par ce film que je trouve très fabriqué sur une femme qui reçoit le scénario de son ex-mari et qui est en train de le lire et qui le trouve, pas le scénario, le roman, et qu'elle, elle trouve ce roman exceptionnel alors que nous voyons sur l'écran la matérialisation de ce roman et c'est une histoire absolument d'une banalité de série B. Également, il y a un film hollandais, un western de 2h30 de Martin Koolhoven, car il y a beaucoup de films de genre. C'est ça qui est très frappant, la science-fiction, la comédie musicale, ici le western, un film un peu gore et vraiment languissant. Et puis La Déception, c'est aussi le film de Wim Wenders. Il faut le reconnaître, malgré toute l'admiration et la sympathie que j'ai pour Wim Wenders, qui fait d'admirables documentaires, eh bien, avec cette pièce de Peter Handke, Les beaux jours d'Aranjuez, dialogue entre un homme et une femme pendant 1h30 dans un parc de la région parisienne. On est dans le Sous-Duras, ou un romer assez lourd, et ça a été effectivement plutôt décevant. Mais il y a tout de même, hors compétition, et ça c'est le problème des festivals aujourd'hui, c'est il y a des films remarquables. Par exemple, il y avait un film islandais, Heartstone, de Gudmundur Arnór Gudmundsson, excusez-moi, qui est une éducation sexuelle de deux jeunes garçons qui hésitent sur leur sexualité, qui est un film remarquablement filmé et remarquablement interprété. Il y avait un film de 18 minutes de Marco Bellocchio, Pagliacci, d'après l'opéra de Leoncavallo, avec deux ténors et en même temps leur rapport avec une mère extrêmement castratrice dans la grande tradition Bellocchio, qui est un chef-d'œuvre de 18 minutes. Et puis le film de Claire Simon, Le Concours, qui est un documentaire à la Frédéric Wiseman sur l'école de cinéma, la FEMIS.
Eh bien, très bien, on va surveiller ça. Je crois qu'il va bientôt sortir en France. Merci beaucoup, Michel Simon. On vous retrouve samedi prochain, même heure, pour un bilan complet de la Mostra. J'espère que vous aurez eu d'autres heureuses surprises. Todd Solondz, Venise, ça vous connaît. Vous y êtes allé 3 fois en compétition pour Palindrome, Dark Horse et Life During Wartime, qui vous y avait valu le prix du scénario. Vous êtes ici en compétition avec votre nouveau film, Le Tekel, tout comme Matron, avec Captain Fantastic, qui a déjà été auréolé d'un prix du meilleur réalisateur dans la section Un certain regard à Cannes cette année, où concouraient également David Mackenzie et son Comancheria. Le film s'appelait alors Hell or High Water. Le film Comancheria est projeté à Deauville demain en avant-première. Les festivals, la compétition, c'est un plaisir pour vous, les cinéastes, c'est une angoisse, Todd Solondz?
It's a pleasure to be here.
C'est un plaisir
in
d'être
Deauville.
Là.
It's such à Deauville. A beautiful little village
C'est
here.
Un si joli petit village.
I don't know what to complain about.
Et je ne sais pas de quoi je pourrais me plaindre.
Matros?
Pour moi, c'est la même chose.
Merci, Matros, de parler en français.
D'être ici. Of course, anytime your film is invited anywhere, it's a great honor.
Je m'étais invité quelque part, c'est un grand honneur pour moi.
Et David Mackenzie, bonjour à vous.
It's hard to follow up these two guys, but basically, yeah, no, it's great to be here.
Difficile d'arriver après mes deux camarades, mais c'est fantastique ici. Il y a le soleil, la nourriture est fantastique. Il y a des gens bien. J'admire beaucoup mes deux collègues réalisateurs, et c'est un plaisir d'être ici.
C'est un grand plaisir aussi de recevoir des réalisateurs américains. J'ai cru comprendre que certains de vos compatriotes douter les risques d'attentats en France avaient annulé leur venue. Donc on est d'autant plus ravis de vous avoir ici. On va parler dans un instant de vos films en détail, mais puisqu'on parle d'Amérique aujourd'hui dans Plan Large et puis pour clore cette séquence d'actualité, je voulais rendre hommage à deux grands messieurs du cinéma états-unien. Un salut amical tout d'abord à celui qui a été notre prix France Culture Consécration cette année à Cannes, le grand documentariste dont Michel Simon vient de citer le nom, Frédéric Wiseman, l'auteur de Titicut Follies, Welfare Hospital et tant d'autres, comme son dernier passionnant In Jackson Heights. Eh bien, figurez-vous qu'en près de 50 ans de carrière et plus de 40 films, il n'avait jamais reçu d'Oscar. Ce sera bientôt chose faite. Il recevra le 12 novembre à Hollywood un Oscar d'honneur pour l'ensemble de la carrière de ce pionnier, cette légende du cinéma américain, pour reprendre les mots de l'Académie des Oscars, le tout en compagnie de Jackie Chan. Ça promet une belle cérémonie. Beaucoup moins moins réjouissant. On a appris lundi la disparition d'un génie comique. Au regard clair et ahuri, à l'abondante chevelure bouclée, Gene Wilder, souvenez-vous, le psychanalyste qui tombait amoureux de la brebis qu'il analysait dans tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe de Woody Allen. C'était aussi la première incarnation à l'écran de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Et puis le réalisateur, il était réalisateur aussi, le frère le plus futé de Sherlock Holmes ou le remake américain d'Un éléphant, ça trompe énormément, La fille en rouge. Et puis, évidemment, c'était surtout le pilier des comédies délirantes de Mel Brooks, Les producteurs, Le shérif est en prison et bien sûr ce chef-d'œuvre dont il avait proposé lui-même l'idée à Mel Brooks, Frankenstein Junior, enfin pardon, il faut dire Frankenstein.
Dr. Frankenstein.
Frankenstein.
You're putting me on.
No, it's pronounced Frankenstein.
Do you also say Frodwick?
No, Frederick.
Well, why isn't it Frodwick Frankenstein?
It isn't, it's Frederick Frankenstein.
I see.
You must be Igor.
No, it's pronounced Igor.
But they told me it was Igor.
Well, they were wrong then, weren't they?
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits. Dressed up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts.
Gene Wilder, qui savait aussi chanter et danser, enfin mieux que la créature, dans Frankenstein Junior. Je vous regardais tous les trois, Matt Ross, David Mackenzie, Todd Solondz, sourire en écoutant cet extrait. La figure comique de Gene Wilder, David Mackenzie.
I liked him a lot. I mean, obviously, I think growing up when I...
Clairement, j'ai grandi avec ce genre de film, avec Charlie et la chocolaterie.
Yeah, no, it's a sad day that he's gone.
Donc, c'est vraiment triste, effectivement,
and
de le savoir.
I'd like to kind of go back and revisit
disparu.
Some of his films.
Mais
now,
j'aimerais bien maintenant
revoir
ces films.
Frankenstein one, that just made me laugh a lot.
Là, l'extrait de Frankenstein m'a vraiment fait beaucoup rire.
Matt Ross.
J'ai fait voir beaucoup de ces films à mes enfants.
Which is the Hitchcock tribute.
Anxiety, qui était
Blazing Saddles,
un hommage à Hitchcock, Blazing Saddles et Frankenstein.
We're probably around the same age. They were iconic to me when I was a kid.
Pour moi, c'est vraiment des films qui étaient
broad,
des icônes humor and de l'humour.
It's very funny.
Un humour illogique très très
drôle. And Gene
Wilder,
I mean, I don't know. It's sad. He always brought there was a humanity and a vulnerability.
Il a toujours apporté une humanité, une vulnérabilité dans tous les
comedy.
Personnages qu'il a interprétés. Il a transcendé la comédie.
Todd Solondz, c'était votre genre de
kind of humor.
D'humour, oui, de comédie.
And comedy.
I remember liking very much.
Je me souviens d'avoir apprécié
when it opened, and I
Young Frankenstein, quand il est sorti.
Coincidentally,
et par coïncidence,
I showed this movie to my son,
j'ai montré ce film à mon fils
last week,
la semaine dernière. Et cette semaine, du coup, on a discuté de la mort avec lui.
On a l'impression d'avoir un résumé de votre cinéma, Todd Solondz. On commence dans l'humour et puis il y a la mort. Il y a la mort aussi et vos comédies sont des comédies grinçantes, des radiographies caustiques de la middle class américaine en pleine déréliction, des comédies très tendres aussi, je crois, même avec les même les plus monstrueux de vos personnages, qu'ils soient névrosés, pervers, voire franchement pédophiles, tous des misfits du rêve américain. En France, on vous a découvert ici à Deauville, il y a précisément 20 ans, c'était en 1996, Bienvenue dans l'âge ingrat, il avait reçu le prix du jury. C'est un film culte pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage vraiment à le découvrir sur les affres de l'enfance, du passage à l'adolescence. Il y a eu depuis Happiness, Storytelling, Palindrome, Life During Wartime, j'en parlais tout à l'heure, et Dark Horse, et puis donc ce nouveau film, Le Teckel, qui sortira en France le 19 octobre, mais qu'on peut déjà découvrir au Festival du cinéma américain, où il est en compétition, cher public qui assiste en direct au festival, vous pourrez le voir demain. C'est l'histoire d'un chien, donc le Teckel, mais surtout de ses quatre maîtres successifs à qui il apportera un tout petit peu de bonheur dans une vie marquée en général par la solitude, la désillusion, voire franchement le désespoir. Les cinéastes expliquent souvent que le plus difficile à filmer, ce sont les enfants. Matros nous en parlera peut-être tout à l'heure, mais aussi les animaux. Alors pourquoi ce chien, Todd Solondz, c'est comment est-ce qu'on filme un teckel, le teckel, ce chien si bas et tout en longueur, qu'on appelle littéralement en anglais le chien saucisse, le winner dog.
Well, I think when I wrote the script,
quand j'ai écrit le scénario,
I was living in denial.
Je vivais en refusant l'idée.
Because I
dans le déni.
Couldn't think of what it would mean to work with a dog every day.
Parce que je n'arrivais pas du tout à m'imaginer ce que pourrait être la vie avec un chien chaque jour.
And I met the dog.
J'ai rencontré le chien.
2 days before we started shooting.
2 jours avant le début du tournage.
There were actually 3 dogs.
Il y avait 3 chiens en fait qui ont joué le rôle.
And they were show dogs.
C'était des chiens entraînés, des chiens de spectacle.
But the one thing they all had in common.
Est-ce qu'ils avaient en commun tous les 3?
Was that they were all remarkably stupid.
C'était qu'ils étaient remarquablement cons, tous les 3.
So that was.
Et ça,
the great ordeal,
ça a été vraiment la grande affaire,
the making of this film,
du tournage de ce film.
I didn't know I would make it to the end.
Je ne savais pas si j'allais y arriver au bout.
But now that I did make it to the end,
mais maintenant que j'y suis arrivé, je suis très heureux d'avoir un chien.
Mais j'ai le sentiment que vous la cadrez, cette bêtise possible, cette stupidité du chien dont vous parliez, comme une espèce de bloc d'idiotie, comme ça, qui nous renvoie peut-être à l'absurdité de la vie. Enfin, il y a quelque chose de très frappant dans le regard mort de ce teckel.
Je ne pense pas qu'en regardant le film, vous allez vous rendre compte à quel point ce chien était bête.
I mean, they were show dogs, but
sincèrement,
they didn't
c'était des chiens, donc
understand,
qui font du spectacle et qui
sit,
comprennent qu'il faut s'asseoir,
stop,
commencer,
stay,
ne pas bouger,
lie down, sleep,
s'allonger, dormir,
eat,
manger,
nothing,
mais rien du tout.
But that's what's wonderful about
et c'est ça qui est génial dans le cinéma.
We create illusions.
On crée des illusions.
And maybe many people will want to
et peut-être que beaucoup de gens
this,
vont vouloir avoir un chien comme lui
never
chez eux suite au film et regretter qu'ils n'avaient pas de chien avant.
Oui, ça va peut-être faire le même effet que les sourins dalmatiens ou Nemo pour les poissons clowns. Est-ce que vous aviez en tête le film de Robert Bresson, Au hasard Balthazar, en faisant ce film? Parce que ce chien fait le lien entre plusieurs histoires humaines et puis connaît des tribulations un peu difficiles pour lui aussi, par moments. Oui,
effectivement, c'est un film important pour moi. Tourné il y a 50 ans et je l'avais vu il y a 30 ans.
It had made an impression on me.
Ça m'avait marqué, ce film.
And I watched it again.
Je l'ai revu.
And the movie has a very oblique kind of narrative.
Effectivement, l'histoire qu'il raconte, il y a un point de vue assez oblique sur les choses dans ce film.
And it gave me a certain confidence.
Et ça m'a donné confiance.
To construct the movie the way I did.
Pour construire le film tel que je l'ai construit.
Having the dog going from owner,
avec ce chien qui passe d'un maître à l'autre et d'un foyer à l'autre.
And that structure, I don't know that I would have done that had I not seen.
Je suis pas sûr si j'aurais tenté ça si j'avais pas vu au hasard Balthazar.
Et puis les quatre maîtres qui vont accueillir les uns après les autres ce teckel racontent aussi l'histoire d'une vie en quelque sorte. Au début, il est adopté par un enfant unique dans une famille. C'est ensuite une jeune femme, une assistante vétérinaire qui va le recueillir. Et puis ensuite un homme d'âge mûr et enfin une dame en pleine vieillesse, pour ne pas dire décrépitude. Vous vouliez aussi raconter le parcours d'une vie à travers des personnages différents?
Yes, there is an arc here.
Oui, il y a une sorte d'arc dramatique là.
It's structured around the trajectory, of course, of the life of this dog. But ultimately, the movie is not really about the dog.
Mais en fin de compte, le film ne parle pas tant que ça du chien.
The movie is about mortality.
Le film parle de la mortalité.
Shadows and
et comme elle porte une ombre sur chacun de ces personnages.
Et c'est un parcours vers la mortalité qui commence par l'enfance. Et l'enfance, comme pour le chien, ça commence par un dressage. Pour être civilisé, pour être un bon garçon, il faut être comme les chiens brisés.
Hey Dad, when do you think we can let Wiener Dog out of her cage?
When she's housebroken.
Why do people say housebroken?
Because, Remy, you have to break a dog, break their will, so that they'll submit to your will. It's a kind of civilizing, so they act like humans.
You mean so they go to the bathroom outside instead of inside?
Exactly.
But when you break a will, well, what is a will exactly, anyway?
It's character. Force of character. It's the thing that makes you, you.
C'est la force du caractère qui fait que tu es toi. C'est terrible parce qu'à la fin du film, je dévoile, excusez-moi, un petit moment de la fin du film, une vieille dame rêve. Et elle se voit petite et elle se dit, voilà, toutes les vies que tu aurais pu vivre si tu avais fait les bons choix. Et quand on se souvient de cette séquence au début du film, on se dit, les bons choix, c'est pas possible de les faire, on est cassé dès le départ.
Well, I'm of the mind that one has no choice.
Moi, je suis plutôt du sentiment et je défends plutôt l'idée qu'on n'a jamais le choix.
That choice is an illusion.
Le choix, c'est une illusion.
Free will is an illusion.
La liberté de décision, c'est une illusion.
I think I chose to come here.
J'ai choisi de venir ici.
But that is an illusion.
Mais c'est une illusion, ce choix.
Oui, j'ai vu votre attaché de presse et vos distributeurs, le pistolet sur la tempe, vous accompagner. Voilà, on salue les distributeurs de ARP, Michel Pétain, Michel Eberstadt et Laurent Pétain, qui sont ici dans la salle. Le second maître du teckel, je l'ai dit, donc c'est une maîtresse, c'est l'assistante d'une vétérinaire. Elle est jouée toujours aussi génialement par Greta Gerwig. Moi, je l'adore. Épaule en dedans, grosses lunettes. Et elle s'appelle Dawn. Alors, vos fans auront reconnu la protagoniste de Bienvenue dans la Gingras. Vous l'aviez enterrée au début de Palindrome, mais elle revient plus forte que la mort. Et de même, Life During Wartime reprenait 10 ans plus tard les personnages principaux de Happiness. Est-ce qu'on peut voir vos films comme l'exploration d'un univers, comme ça, comme une vaste fresque qui ferait revenir les mêmes personnages et qui nous donnerait de leurs nouvelles année après année? Todd Solondz.
I'm just appreciative that people see these movies.
Déjà, je suis content que les gens aillent voir mes films.
I have created a number of characters and
j'ai créé de nombreux personnages et de temps en temps,
makes sense and it seems
il me semble
nice
raisonnable et agréable de les faire revenir sous une autre forme.
To be a filmmaker,
être cinéaste,
are able to create
ça veut dire
lives
que vous créez des vies, des existences.
And you can also create
et vous pouvez
other
aussi
lives
créer de nouvelles vies qui suivent la vie de vos personnages.
So such that I can, for example, I
par exemple,
can, have Dawn Wiener,
je peux
born in Welcome to the Dollhouse,
faire naître Dawn Wiener dans Bienvenue dans l'âge ingrat
and die in palindromes,
et la faire mourir dans Palindrome.
But I can also
mais je peux aussi
well, I want her to have a different kind of life
me dire que j'aimerais qu'elle ait, ce personnage, une autre existence,
a little sunnier,
une vie un petit peu plus dans le soleil, une plus, and, plus lumineuse.
So I was happy to have the opportunity
alors,
to give her this
j'ai été content d'avoir la possibilité de lui donner une nouvelle vie dans ce film. Je sais bien que nous avons chacun qu'une seule vie.
But when we go to the movies,
mais
we
quand
can
on va au cinéma, on peut imaginer
lives,
d'autres vies possibles.
And for me, other lives,
et pour
other
moi,
lives.
Des autres vies, voilà, c'est ça, c'est comme ça que je les vois.
Vous êtes un démiurge bienveillant, Todd Solondz. On avait entendu souvent dans vos films, les gens ne changent pas, on l'entendait dans Bienvenue dans l'âge ingrat, on l'entendait aussi, et c'était repris dans Palindrome, et pourtant, justement, je parlais de démiurge bienveillant. J'ai le sentiment qu'en 20 ans de cinéma, vous avez changé, vous, Todd Solondz. En tout cas, votre manière d'avoir une peut-être plus d'empathie pour vos personnages, vous êtes passé du sarcasme à la mélancolie, du cynisme à l'empathie au fil des années. Vous avez ce sentiment?
Or maybe you've changed.
Ou peut-être que c'est vous qui avez changé.
Peut-être. J'ai vieilli avec vous, Todd Solondz.
I grew old with you.
I like to think that, you know, my movies are.
Moi, je me dis que.
They're all fraught with ambiguity.
Mes films sont tellement emplis d'ambiguïté.
So from the beginning, so
depuis le
people
départ.
Have half the audience. May laugh
et le public peut en rire.
Work and
parfois,
the other half
ce film fonctionne pour une partie du public et pour l'autre partie du public peuvent se mettre en colère contre la première partie du public en disant « Mais comment vous pouvez rire de ça? Comment est-ce possible ?» Pour moi, c'est toujours les deux qui coexistent.
Et parfois, ça peut obscurer. Exactly. Where do I stand in all of this?
Ça peut complètement obscurcir mon point de vue. Où est-ce que je me retrouve moi? Où suis-je dans tout ça?
If I didn't feel for my characters,
si je n'avais pas de sentiment bienveillant envers
I
mes personnages, certainement,
ça
me serait impossible de me lancer dans la fabrication de ces films.
Alors vous êtes avec tous vos personnages, mais il y a aussi des personnages qui vous ressemblent peut-être plus, en tout cas que le spectateur peut identifier comme ça, comme des doubles de Todd Solondz. Il y avait Paul Giamatti dans Storytelling en documentariste. Et puis ici, il y a un professeur de cinéma dans une prestigieuse école de cinéma à New York, joué par Danny DeVito. Ses élèves le trouvent un peu trop négatif pour leur donner la bonne envie de faire du cinéma. Il faut dire qu'il y a de quoi être négatif parfois. Quand on voit qui se présente au concours d'entrée.
So tell us, why do you want to be a filmmaker?
Well, I've just always wanted to be a filmmaker. Yeah, ever since, really, my whole life.
Well, that's great.
Yes, but why?
Well,
I just feel I have so much to say.
Like what? What do you have to say?
Just everything. I mean, movies have always been so inspiring to me.
But tell me, what movies have inspired you? What movie or movies made you want to become a filmmaker?
Oh, gee. Yeah, well, really, there are just so many. I mean, you name it. Like, all kinds.
Name one, for example.
Oh, God, that is such a good question. And I mean, it's really hard, you know, because there are so many that are just so great.
What movies have you seen in the past few weeks or months? Have you liked any of them in particular?
The past few weeks.
Any movie that you saw over the last year and that you really liked.
Or made an impression.
Yeah, I know this is like a trick question, yeah, but there really are so many that I just can't keep track.
Please, just name a movie.
Any movie.
excuse me. I have to take this.
Voilà, Danny DeVito dans une scène très drôle. Ça marche très bien parce que dans le théâtre, on n'en voyait pas les images, mais on riait déjà beaucoup dans la salle. Danny DeVito, il y a un vrai goût de l'acteur chez vous, Todd Solondz. Je parlais de Paul Giamatti tout à l'heure. Il y a eu Paul Seymour Hoffman, Mia Farrow, Christopher Walken dans votre précédent film, Greta Gerwig, aussi Danny DeVito. Donc Julie Delpy, Ellen Burstyn dans ce nouveau film. Quel plaisir vous avez à jouer avec ces figures du cinéma extrêmement fortes et comment est-ce que vous les dirigez, Todd Solondz?
Well, when you work with an actor,
quand vous travaillez avec un comédien que le public connaît, vous avez envie de leur offrir un rôle qui les montre différemment de l'habitude et qui montre des facettes qui n'ont pas été exploitées auparavant au cinéma.
With you don't have that challenge with people nobody knows.
Il n'y a pas ce pari à faire avec des acteurs que personne ne connaît.
But I'm very conventional, I think.
Autrement, je suis assez banal dans ma façon de faire avec les comédiens.
People come.
Pendant le casting, les gens arrivent, ils lisent le rôle.
Then I pick the one that
et
I
je choisis celui ou celle
suitable.
Qui me semble le plus approprié.
Alors, ça tombe bien, on ne va pas faire un casting en direct, mais un comédien, il y en a un sur ce plateau ce soir en direct du Festival du cinéma américain de Deauville. Il est aussi réalisateur, bien entendu. C'est Matt Ross. Vous ne voyez pas qui est Matt Ross. Petit rappel en une minute, grâce à notre réalisatrice Somanina.
Hey, you want the good news or the bad news?
Bad news, always.
All right. We install the 450 radio, but the struts won't take the vibration. The minute we fire her up, the struts start cracking at the attach points.
Well, what's the good news?
I don't know, I'm not really a disco type. I probably wouldn't get in anyway.
Of course she'll get in. Holly's gorgeous.
God, Patrick, why here?
I've seen you looking at me. I've noticed your hot body.
Don't be shy.
Sir, why are you so upset? It's just Pollux Troy.
Hello, Nelson. Thanks for meeting with me.
Whoa. Hi, that's cool. Am I a hologram over there, too?
What? No, of course not.
Mr. Belson?
Can you hear me?
Hello?
Can you hear me?
Yeah, it's sort of fading.
Hello?
Vous avez reconnu les films qu'on vient d'entendre, Matt Ross. Je vous sentais pas très très content d'entendre ce petit montage de Somanina, Matt Ross.
C'est comme si c'était une mauvaise expérience de drogue.
C'est une expérience de distanciation, en tout cas.
Votre vie passe en flash devant vos yeux.
Alors, les moments de vie en flash devant vos yeux, c'était Aviator, Les Derniers Jours du Disco, American Psycho, Face Off et Silicon Valley. Mais alors, ça aurait pu être, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Ça aurait pu être Happiness. Il paraît que vous avez passé le casting du film de Todd Solondz pour le rôle qui a finalement été joué par Philip Seymour Hoffman.
I don't think I was close at all to being in Happiness.
Je ne pense pas que j'étais si près de jouer dans le film. J'ai lu pour lui.
I was very happy to meet him because I'm a fan of his work.
J'étais ravi de le rencontrer parce que je suis un grand fan de son travail. Mais voilà.
He made an excellent choice in casting Philip Seymour Hoffman.
Un choix excellent en faisant le casting de Philip Seymour Hoffman à ma place. L'histoire a démontré que c'était vraiment un excellent choix.
Ah mais écoutez, l'avenir peut nous réserver encore des surprises. Alors j'ai cité ces titres de films. Mais quel réalisateur, Martin Scorsese, Will Stillman, John Woo, Terry Gilliam, qu'est-ce que vous avez appris avant de passer vous-même à la réalisation de ces réalisateurs, de ces cinéastes? Vous les avez observés? Vous avez...
That's a very complicated question.
C'est une question très complexe.
I think every person is your teacher. They teach you how to be or how not to be.
Ils enseignent la vie quelque part.
I learned little things from each of them.
The truth is, when I'm hired as an actor, I don't show up on the set and spend my time observing the director. Insofar as I don't Et je n'observe pas
think, oh, how are they going to choreograph this? How are they going to, what shots are they doing?
Ceci,
the job of an actor is difficult
le
enough.
Travail d'un comédien, c'est un travail and if someone has invited me to do that, si quelqu'un m'invite à être un acteur, je viens, je suis un acteur.
Having said that,
je me concentre
you can't
là-dessus.
Help but learn from
mais ceci étant dit, bien sûr, vous ne pouvez pas vous empêcher d'apprendre en observant.
Et à l'inverse, d'avoir commencé comme comédien, vous pensez que vous-même, pour diriger vos comédiens, vous bénéficiez de votre propre expérience, savoir par exemple ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il n'y a pas de trop à dire à un comédien.
Perhaps. I started acting in theater when
j'ai
I was very young.
À jouer dans des, and at the same time, I made films.
So
époque,
I've made
fait des films.
Films my entire life.
Donc j'ai fait films toute ma vie.
If people happen to know of me, they tend to know of me if a TV show happened.
Les gens me connaissent avec un show télévisé ou quelque chose.
Maybe a clear example of what you're talking about
un exemple très clair de ce que vous dites, par exemple, c'est que les comédiens me regardent comme si j'étais un des leurs. Et donc bien sûr, j'ai un langage commun avec eux. J'ai été dans leurs propres expériences, j'ai eu les mêmes.
Process. The truth is, there are as many different kinds of actors as there are people.
Mais il y a
there
beaucoup d'acteurs différents, comme il y a beaucoup de gens différents, il y a beaucoup de réalisateurs différents. Et moi, pour moi, mon travail, c'est assez large, c'est essayer d'identifier le processus de chaque comédien et voilà, essayer de faire en sorte qu'ils aient le meilleur environnement possible pour pouvoir exercer leur travail.
Mais ça donne un résultat formidable parce que vos comédiens dans Captain Fantastic sont extraordinaires. Captain Fantastic, c'est votre second long métrage comme réalisateur après 28 Hotel Rooms il y a 4 ans. Le film sortira le 12 octobre en France. Il est présenté aujourd'hui en compétition au Festival du cinéma américain de Deauville où nous sommes en direct, faut-il le rappeler, et en public depuis le théâtre du Casino Barrière. Que le titre ne vous trompe pas, si vous ne savez rien de ce film, Captain Fantastic, ce n'est pas une nouvelle franchise de super-héros, non, le fantastique capitaine, un peu comme on dirait fantastique maître renard chez Roald Dahl. C'est un père exemplaire et interprété avec toujours autant de charisme par le très beau, même quand il est barbu, Viggo Mortensen. Il élève sa famille nombreuse, 5 enfants, dans la très dense forêt du nord-ouest des États-Unis, selon les principes, excusez du peu, de la République de Platon. Le but, en faire des rois philosophes, aussi apte à tuer un chevreuil à l'arme blanche, escalader une falaise à main nue, qu'à analyser très précisément la pensée politique américaine. Dans la famille, on ne fête pas Noël, on fête le Noam Chomsky Day. Tout va se compliquer dans cette utopie hippie réalisée quand la mère meurt et qu'il va falloir se confronter au monde extérieur. D'où vient cette histoire, Matt Ross? Vous êtes vous-même l'auteur du scénario de ce film Captain Fantastic.
For me, at least personally, I think I'm only aware of where the film came retroactively.
Il me semble en rétroactivement quand je repense que je sais à peu près d'où l'histoire vient. Comme cette pierre proverbiale qui roule et qui attrape des morceaux d'herbe de terre. Je crois qu'il y a une idée initiale et puis qui grandit vers quelque chose d'autre. La genèse de tout cela, c'est que j'ai deux enfants, j'ai une fille de 13 ans et un garçon de 9 ans. Et lorsque j'étais en train d'écrire, j'avais beaucoup de questions sur le fait d'être père, sur le fait d'être un parent au sens large du terme, et j'ai mis tout cela dans le contexte de la narration, de l'idée d'origine.
Alors c'est un film qui a tout ce qu'il faut pour, si ce n'est énerver, peut-être faire rire, mais peut-être aussi énerver une certaine Amérique, l'Amérique conservatrice. On se moque des religions, on dit attention, on ne se moque pas des gens, sauf des chrétiens. Il y a de la nudité frontale et masculine, les amateurs de Viggo Mortensen en seront ravis. Il y a des gros mots, des fuck, en veux-tu, en voilà, et puis d'autres mots qu'on entend rarement dans un film américain, même dans un pays où un candidat aux primaires démocrates se revendiquait socialiste.
Sorry. Are you coming in? No, okay. Bye.
Hey, boy, I got that. Go talk to him. You got time.
Ask her what she thinks of the working people creating an armed revolution against the exploiting classes in their state structures.
Well, Marxists can be just as genocidal as capitalists.
Or whether or not she's a dialectical materialist and accords primacy to the class struggle.
Avoid Marxism. Or telling her you're a Trotskyite.
Trotskyist. Only a Stalinist would call the Trotskyist a Trotskyite. And I'm not a Trotskyist anymore. I'm a Maoist.
Right.
forgot. Sorry.
Lutte des classes, marxisme, stalinisme, je ne suis plus trotskiste, je suis maoïste, précise l'aîné de la famille à son père qui lui déconseille quand même de sortir ce genre de phrase pour draguer les filles. Et alors c'est très très intéressant dans votre film, c'est très ambivalent cette façon que vous avez de placer des mots aussi politiques dans la bouche d'adolescents, voire d'enfants, hein, vraiment très au fait de l'histoire politique des États-Unis. On en sourit et en même temps on sent un profond respect de votre part pour cette Amérique alternative, pour cette sorte de néo-contre-culture de ceux qui ont lu à la fois Noam Chomsky et Howard Zinn pour son Histoire populaire des États-Unis.
The question is,
on sent voilà, que c'est à la fois un élément comique et un élément de profond... Vous avez un profond respect pour ces personnages. Et on a une ambivalence en permanence dans cette manière d'entendre ça.
Je dis toujours
many Americas within the United
qu'il y a
States of America,
beaucoup d'Amériques différentes aux États-Unis d'Amérique.
Probably hundreds of thousands,
peut-être 100 000 différentes.
City you're talking about.
Ça dépend de quel État ou quelle ville vous parlez. Le film parle de,
kind of rural culture
de la culture.
That, in this particular film is represented by this family that I would say veers to the
left of the political spectrum. Une famille, on va dire, qui est plutôt dans le spectre de gauche, on va dire, et puis l'Amérique, on va dire, de la banlieue, et puis l'Amérique des villes, qui est plutôt conservatrice. J'espère que c'est fait avec suffisamment de complexité, de respect et d'intelligence également. Je ne sais pas si c'est rare de voir ce genre de culture décrite. Peut-être que c'est rare, en tout cas en Europe, en tout cas peut-être qu'on ne voit pas ça suffisamment. C'est vrai que c'est peut-être unique de voir un film qui critique ce genre de culture aux États-Unis, qui vient des États-Unis. Je ne crois pas, parce que les réalisateurs qui sont à cette table, j'ai vu leurs films, et c'était également assez actif dans la manière de critiquer les États-Unis.
Ah oui, ça je vous l'accorde volontiers. Non, moi c'était le plaisir d'entendre ces mots-là dans un film américain. C'est quand même relativement rare. Et puis ce que vous arrivez très bien à produire, c'est de nous mettre dans le point de vue, comme vous le disiez, à la fois de ces deux côtés de l'Amérique, pour nous donner à voir comme bizarre, incongru, de l'autre côté. C'est-à-dire que quand cette famille débarque dans la civilisation, on peut trouver très étrange de voir un centre commercial ou un golf, mais on comprend aussi comment eux-mêmes peuvent avoir l'air assez saugrenus aux yeux de l'Américain moyen.
The central family, you think they look strange? Is that what you're saying?
Ben, à certains, ils semblent étranges, oui, quand ils arrivent à un mariage habillé de manière extrêmement colorée. Ce que je veux dire, c'est que vous arrivez à nous faire, et c'est une force de votre film, à nous faire basculer des deux points de vue en permanence. Il y a une vraie dialectique, pour reprendre un terme marxiste, dans votre manière de les montrer.
I'm glad that's your response. I think
je suis heureux que vous ayez
we should not judge
comme ça.
Our
on ne devrait pas juger nos personnages. Les acteurs, en général, disent qu'ils ne veulent pas que l'on puisse juger les personnages comme ça, et en tant que réalisateur, c'est pareil. Les personnages ont toute leur complexité, et ce n'est pas à nous, en tant que réalisateur, de vous dire où se trouve le noir, où se trouve le blanc. C'est trop réducteur, et c'est assez condescendant. En plus, je n'aime pas ça en général, en tant que consommateur, et quand je fais un produit, je n'aime pas faire ça non plus.
Et on est très frappé quand on voit le film par la beauté de l'image, la force de ces tout premiers plans, de cette chasse aux chevreuils dont je parlais, cette façon de filmer la forêt, puis quand ils découvrent cet autre territoire à l'extérieur, qu'ils vont en bus scolaire même, le fameux bus Steve, jusqu'au Nouveau-Mexique. Alors quand on regarde le générique, on se rend compte que vous avez pris un chef opérateur français, Stéphane Fontaine, chef-op de Jacques Audiard, César pour De rouiller d'os, un prophète et De battre mon cœur s'est arrêté. Un chef opérateur français qui s'était déjà aventuré dans le grand paysage américain, c'est lui qui avait filmé le Jimmy P d'Arnaud Desplechin. Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher un chef opérateur français pour filmer l'Amérique?
Well, I haven't seen all of Stéphane's films,
je n'ai pas vu tous les films sur lesquels Stéphane a travaillé. Sa collaboration avec Jacques Audiard, pour moi,
C'était vraiment très très spécial. Son travail sur ce film était extraordinaire, sur ces films. Je l'ai choisi parce que je pense que les directeurs de la photo, tout comme les acteurs, etc., n'ont pas envie de faire le même film tout le temps. Mais il me semble avoir identifié quelque chose dans son travail qui, je pense, aurait été utile pour moi. Bon, c'est vrai que c'est un peu égoïste, mais il filme d'une telle manière que c'est la manière de raconter visuellement est vraiment très intéressante. Ce n'est pas, ces plans ne sont pas, sont assez évocatifs pour moi. Ils évoquent quelque chose. Et Vigo, par exemple, a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant et qu'il n'a jamais refait après. Et Stéphane a vraiment réussi à attraper ce jeu à l'écran, à l'image. Et moi, vraiment, la manière dont il travaille avec les comédiens sur le storytelling, sur la façon de raconter l'histoire, est intéressant. Et quand vous parlez de la beauté des images, c'est quelque chose évidemment qui est très compliqué de parler de cela. Je ne suis pas sûr de ce que vous parlez, mais la photographie des endroits naturels dans lesquels on a filmé, les extérieurs, les plans extérieurs en pleine journée, l'État de Washington et l'État du Nouveau-Mexique dans lesquels on a filmé sont des États qui sont très très beaux. Notre désir était de faire voir la beauté de la nature, simplement pour faire voir d'où est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont à traverser pour rejoindre la civilisation et la juxtaposition de ces différentes images qui sert le scénario et l'histoire que je raconte.
Alors, comment filmer le Nouveau-Mexique ? On va en parler dans un instant avec David McKenzie, mais puisqu'on parlait d'un chef opérateur français, le cinéma français, à l'inverse, entre tient toujours un rapport très étroit avec son homologue outre-Atlantique. Prenez Bertrand Bonello. Mercredi est sorti en France son nouveau film Nocturama, un film brûlant d'actualité malgré lui, puisqu'il raconte, si vous l'ignorez encore, l'équipée terroriste de jeunes gens dans Paris. Un film brillant dans sa mise en scène qui n'explique rien. Un film behavioriste à la manière du cinéma de genre américain, justement des années 70. On pense beaucoup aux Zombies de George Romero ou à Assaut de John Carpenter, une influence revendiqué par le cinéaste Bertrand Bonello.
Mon entrée dans le cinéma, elle s'est faite par ce cinéma de genre fin 70, début 80. Les Carpenters de cette époque, les Romero, comme les Cronenberg ou les Argento. Et puis, je me suis aperçu bien plus tard en les revoyant que c'est un cinéma qui arrivait à faire du cinéma politique par le genre ou par la fiction et non pas par le discours. Et ce que moi je trouvais très beau dans ce cinéma-là et qu'on a un peu perdu, je trouve, dans le cinéma de genre aujourd'hui, c'est que c'est un cinéma qui mettait au premier degré en scène les propres terreurs de ses metteurs en scène. Et qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le divertissement. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est de renommer des terreurs actuelles et de les mettre à l'intérieur d'une fiction de films de genre. Mais il faut déjà arriver à les renommer.
Et votre idée de vous aventurer franchement dans le cinéma horrifique est quelque chose qui vous travaille encore?
J'avais essayé il y a quelques années, hein, j'avais un projet qui est allé très très loin, qui s'est arrêté au début de la préparation, qui devait se tourner au Canada, en anglais, qui flirtait beaucoup avec le fantastique. Évidemment, ça fait rêver. Tous les metteurs en scène rêvent à un moment de ça, parce que c'est d'autres acteurs, l'accès aussi à cette langue, cette musique, qui est quand même la musique de la fiction. Enfin, il y a plein de possibilités, c'est pas uniquement pour avoir un marché mondial. Après, il faut trouver la bonne distance, la bonne manière. Le cinéaste français qui arrive totalement à l'intérieur des États-Unis et qui veut essayer, j'y crois pas trop, il y en a très peu qui ont réussi. Faire un film européen ou français avec une star anglo-saxonne pour pouvoir avoir justement accès à cette musicalité, pourquoi pas ? Il y en a peu qui réussissent, mais pourquoi pas, oui.
Alors David McKenzie, faire un film européen avec une star anglo-saxonne, il y en a peu qui réussissent. Vous êtes écossais, vous avez beaucoup tourné en Grande-Bretagne, mais vous aviez déjà tourné un film auparavant aux États-Unis. Alors là, vous tournez avec des stars, Chris Pine, Ben Foster et surtout l'immense Jeff Bridges, parfait en vieux ranger ronchon. Comancheria, film passionnant, difficile pour un réalisateur européen de s'acclimater au système américain, David McKenzie.
For me, I'm familiar with obviously a lot of the great American movies. It was interesting hearing that.
Moi, bien sûr, about the genre movies of the 80s. Je connais bien le cinéma américain en tant que spectateur et j'ai bien aimé ce qu'il était dit là à l'instant sur le cinéma de genre, ce genre qui subvertit les choses, et qui permet de voir les choses avec un autre œil. Et de tomber sur un tel scénario, c'était quelque chose de très intéressant. Et ce qui m'a intéressé, c'est que finalement, c'est de ne pas faire ce film en tant que venant de l'extérieur, comme un étranger, mais essayer d'assimiler les choses, d'essayer de filmer les choses de l'intérieur. C'est ce que... Et ça n'a pas été un processus difficile, ça a été avec beaucoup de joie.
Comment Cheria, des gens, il y en a hein, dedans. Il y a du, on pourrait dire, c'est du néo-western. C'est aussi un film de braquage. C'est aussi un buddy movie. C'est aussi un film de famille avec cette histoire de frères au Texas qui, pour éviter la saisie de leur ranch par une banque, vont braquer les agences de la même banque afin de la rembourser avec son propre argent et traqués qu'ils sont par un duo de rangers qui prennent leur temps.
But you don't know this much in child support.
You must be out of my goddamn mind to ask you for help.
You want to get us killed? Huh? That's out of Midland Branch. That's not part of the plan.
Now we got to go back to the ranch and bury the car.
Fuck!
No, we do not. We're over halfway to Oklahoma.
I'm not driving a stolen getaway car through a fucking Indian casino. Just put us a goddamn day behind.
Well, I got us a day ahead this morning, so I guess we're even. You're welcome.
Fuck you!
Can't answer your own phone?
I'm driving. You're just sitting there twiddling your fat fingers.
Ranger Hamilton's phone.
Le film, donc, est tourné au Texas, David Mackenzie, enfin, au Nouveau-Mexique, si j'ai bien lu, mais ça figure le Texas, et on a l'étrange sentiment, vous disiez tout à l'heure que vous ne vouliez pas faire l'Européen qui regarde l'Amérique, mais vraiment travailler l'Amérique presque de l'intérieur, et on a l'impression que vous filmez à la fois l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique en crise perpétuelle, celle des blancs pauvres, celle des expropriations par les banques, et qu'en même temps, vous vous aventurez dans le cinéma américain lui-même, plus précisément celui des années 70, par exemple, ceux dans lesquels jouait Jeff Bridges. On pense à la dernière séance de Peter Bogdanovich, on est quasiment dans les mêmes décors, on pense au Canardeur de Michael Cimino et tant d'autres. Il y avait ce double mouvement, à la fois filmer l'Amérique d'aujourd'hui et celle qu'elle a été dans le cinéma. Harold Manning assure brillamment la traduction. David Mackenzie.
Pour moi,
il s'agissait de faire un film contemporain et de puiser dans l'ADN de ces films dont vous parlez. Quand je fais un film comme ça et j'essaie de me plonger vraiment dans ce que c'est que le scénario, le sujet, j'essaie pas de faire l'intéressant et d'essayer de montrer ma vision des choses. J'essaie vraiment de me plonger moi-même à l'intérieur du sujet et de la sensibilité des personnages. Et puis il y avait une coïncidence, c'est que The Last Picture Show de Bogdanovich avait été filmé à Archer City. Et nous étions aussi à Archer City. Et Jeff, qui était très jeune au moment de ce premier film, était de retour là. Et c'était quelque chose de cool et d'intéressant de revenir sur ses traces. La semaine dernière, j'ai compris que Bogdanovich a vu notre film et l'a beaucoup apprécié. Et c'est une drôle coïncidence aussi, ça. C'est amusant, c'est intéressant.
Mais ça, vous la captez presque, cette émotion, maintenant que vous le dites, de Jeff Bridges, parce que vous avez une manière de filmer à la fois le grand territoire américain désertique et vos personnages, comme si vous attendiez qu'il se passe quelque chose et que vous alliez capter quelque chose de très, très particulier, qu'il se passe entre eux et le territoire ou entre les personnages. C'est votre façon de filmer ?
Well, it's interesting listening to what Matt was saying because it's a
similar
kind of thing.
And Matt
and I
have spoken last night. Parce que on en a parlé d'ailleurs tous les deux hier soir. C'est une question d'être prêt à saisir quelque chose. J'essaie de créer des films qui, à la fois, peut être vaste et large et avoir une perspective large, mais aussi en même temps être libre et ouvert et prêt à capter à la magie qui peut soudain advenir. Il y a des trucs que faisait Jeff, je n'avais pas du tout J'étais pas au courant et je faisais waouh, incroyable. Et c'est important en tant que réalisateur d'être là et de pouvoir être là pour pouvoir capter que ces moments-là se retrouvent sur la pellicule et pas, ne soient pas perdus. Il faut avoir une liberté dans le processus de tournage et de mise en scène pour pouvoir permettre ce genre de choses.
D'autant que votre film passe aussi sans arrêt d'un registre à l'autre, émotionnellement parlant. C'est un film qui est à la fois poignant, il y a de l'action qui prend le spectateur, qui est très émouvant et qui est très drôle aussi par moments. Il y a des moments de déflagration comique, quasi absurde. Comment est-ce que vous dosez ce mélange entre les deux, presque comme une partition musicale ?
Ça me fascine de pouvoir faire cohabiter des tons différents dans un film, de passer de l'ombre à la lumière, du calme à la tempête, et de passer à des moments vraiment très traumatiques, dramatiques. Et ce voyage dans lequel nous suivons les personnages nous permet de les montrer vraiment surpris par ce qui leur arrive et de montrer vraiment des choses qu'ils ne pensent pas qu'ils vivraient eux-mêmes.
Et il y a quelque chose aussi, enfin, ce que vous racontez, le spectateur le sent complètement. Je ne sais pas si c'était comme ça dans le scénario de Taylor Sheridan, hein, ce scénario que vous avez adapté, Taylor Sheridan, celui qui avait signé le scénario de Sicario, c'est que le spectateur n'a jamais ce à quoi il pourrait s'attendre. C'est-à-dire qu'une scène va commencer, on va se dire normalement, spectateur habitué que nous sommes de ce genre de film, voilà ce qui va arriver, et pas du tout. Il se passe autre chose.
Quand c'est une surprise, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour le spectateur. Mais pour vous répondre, le script effectivement c'est fantastique. On s'est emparé de ce scénario. On a inventé des choses, on a fait évoluer des choses. Beaucoup de choses qui sont dans le film viennent directement du scénario, d'autres choses ont été improvisées.
And I have to kind of give a little nod to my editor Jake Roberts.
Et je dois aussi along with my DP féliciter mon monteur et mon directeur de la photo. On a travaillé sur de nombreux films auparavant, on travaille beaucoup et cette collaboration, cette proximité nous aide beaucoup à avancer et à travailler dans le sens que l'on souhaite.
Et puis, il y a aussi une bande originale formidable, une bande son signée, tiens, encore par quelqu'un qui n'est pas américain, un Australien, Nick Cave, mais aussi par Warren Ellis. Qu'est-ce que vous lui avez demandé à Nick Cave? Parce que les yeux fermés, on est en Amérique.
Well, it's interesting. Nick and Moore, I actually tried not to have a composer on the film at all.
Moi, je voulais ne pas avoir de compositeur, utiliser de la musique préexistante. Je voulais que le film nous parle lui-même. Et nous donne lui-même la musique. On voulait de la musique country peut-être. On ne voulait pas passer d'un genre de musique à l'autre et d'avoir de la musique d'accompagnement dans le film. Mais on a commencé à utiliser la musique de Nick qu'il avait composée pour d'autres films. Et ça collait tellement bien. Et donc on les a contactés tous les deux et pour leur demander de composer une musique originale, pour trouver la forme, pour trouver la bonne nuance de musique qui collerait. Et je suis tellement content de ce qu'ils nous ont apporté. Et j'ai adoré travailler avec eux.
I come down from Oklahoma with a pistol in my boot, a pair of dice, a deck of cards, and a Bible in my suit. I come here as the cause of tears, just to cry and shame. Seven stood our eternal blood, I'm looking for a game. I double-cross the state of Texas and they give me a little time. I tell myself to double-cut the cards and hold scriptures in my mind. I learn to love the tumbling dice and to believe the word. Doom stones, rolling bones beats anything I ever heard. Patience is a virtue that I don't possess. I can't deny that heaven lies beneath the cotton dress. How small a part of time was shared to hear the sound of wings. I'm lost in the dust of the chase that my life brings.
Je précise que ce n'est pas Nick Cave qu'on entend, mais c'est dans votre film Comancheria, c'est Ray Wiley Hubbard, Dust of the Chase. Merci beaucoup David McKenzie, Matt Ross et Todd Solondz. Comancheria sort mercredi prochain. Pour Captain Fantastic, il faudra attendre en France le 12 octobre et une semaine plus tard, le 19 octobre pour le Tekel. On en reparlera. Merci aussi à Harold Manning et David Rowe d'avoir si bien traduit leurs propos. Le festival du film américain de Deauville se poursuit jusqu'au 11 septembre, date spéciale pour l'Amérique. Merci à toutes les équipes du festival pour leur accueil, à celles de Radio France, Rajabouni et Benoît Jégou en tête, pour avoir rendu ce direct possible. À la technique aujourd'hui, Eric Audra, Étienne Leroy et Alexandre James et Myriam à Paris. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somanina. La semaine prochaine, on restera en territoire américain. Nous serons en effet à nouveau en direct et à nouveau en public, cette fois du Festival America à Vincennes, avec les écrivains David Grand et Stewart Onan. Nous évoquerons les prémices et l'âge d'or de Hollywood. D'ici là, je vous aurai retrouvé mardi soir dans la dispute où nous bataillerons autour de trois films, Divine, Voir du Pays et France. Mais pour l'heure, l'après-midi se poursuit sur France Culture. Dans quelques instants, vous saurez tout sur Léo Ferré dans Une vie, une œuvre par Jérôme Sandlars.